11h43 de retour dans Trudeau Landry. On va aller s'entretenir immédiatement avec le chef intérimaire du Parti québécois. Il est également député du merveilleux comté de Matapédia, Pascal Birubé, qu'on joint au bout du fil. Monsieur Birubé, bonjour.
Bonjour.
Je veux tout de suite parler avec vous de un de votre cheval de bataille, un de vos priorités, qui est la transparence du gouvernement. Et là, ce matin, on apprend que dans la question du délai du report des opérations, le gouvernement du Québec a fait signer des ententes de confidentialité à certaines organisations, dont la FMSQ, pour éviter de rendre public des données par rapport au report de chirurgie, à un moment où on se questionne beaucoup sur les impacts de ces reports-là. En termes de transparence, là, on a déjà vu mieux.
Pour créer de l'adhésion des Québécois et des Québécoises, il faut partager l'information, il faut tout dire. Et les gens ont l'impression cette semaine qu'on commence à peine à poser ces questions. Depuis le printemps dernier, je demande qu'est-ce qui relève de la politique, qu'est-ce qui relève de la santé publique, comment se font les arbitrages, est-ce qu'on peut en être informé? Et j'en ai ajouté une couche cette semaine. Je veux obtenir les avis de la santé publique qui justifient de fermer la restauration et le secteur culturel au Québec dans les zones rouges. Qu'est-ce que j'apprends de la part du premier ministre à l'Assemblée nationale? C'est qu'il n'y en a pas d'avis. Et la directrice de la santé publique de Montréal, Dr Mylène Drouin, a dit, moi, je vous donne déjà une indication, ça vient pas de nous, puis on n'aurait pas fait ça. Alors, qui a décidé que c'était la chose à faire de fermer les restaurants avec tout ce que ça implique et le monde culturel? On ne le saura peut-être jamais, mais en toutes circonstances, chaque fois qu'on a demandé des données, par exemple, McKinsey, une grande firme internationale, 1,7 million sans appel d'offres, qui a été chargée de faire tous les scénarios de confinement puis de déconfinement, on a voulu obtenir les avis, on nous les refuse. Et je termine en disant que le docteur Arruda s'est fait questionner en disant, ben, vous avez des avis, il dit, ah, j'ai des documents de travail, j'ai des tableaux, mais on jase. Ben, au moins, je prendrais une boîte de ça pour qu'on puisse regarder. Et un journaliste de Radio-Canada s'est fait répondre, ben, finalement, faites donc une demande à la loi d'accès à l'information. C'est épouvantable. Ben,
c'est ça, c'est parce que là, ce qu'on veut comprendre là-dedans, puis bravo de le faire, M. Birubé, je pense que vous avez tout à fait raison de le faire. Moi aussi, là, je veux savoir pourquoi les restaurants sont fermés depuis minuit hier soir dans les zones rouges. C'est très, très pertinent. Mais là, y a-tu des documents? Vous avez parlé de peut-être une pile de documents. C'est-tu des discussions? Y a-tu un verbatim des discussions? Ce qui se dit au Conseil des ministres aussi, on peut-tu... Ça, j'imagine que c'est protégé par un...
C'est encadré. Bon, la différence. Ouais. Conseil des ministres, il y a des procès-verbaux très précis qui ne seront disponibles au public que dans 25 ans. Ouais. Bon, c'est pour ça qu'à l'occasion, vous voyez dans les journaux, quand il y a des événements importants, c'est arrivé cette année avec la crise d'Oka, par exemple, que tout est accessible puis les journalistes peuvent en parler. Ce que je réalise, c'est que dans un moment crucial de notre vie collective, où les décisions du gouvernement du Québec engagent notre santé, notre économie et notre liberté, il n'y a aucune note qui est prise de toutes ces rencontres-là. Je vous donne un exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, où c'était particulièrement intense, là, le général de Gaulle, lui, il a été capable de ramasser assez de notes pour faire ses mémoires de guerre 1 puis mémoires de guerre 2. On peut pas croire qu'il n'y a pas de personne qui est dans l'entourage du gouvernement de la CAQ qui pourrait prendre des notes sur ce qui s'est dit pour pouvoir s'y référer et pour pouvoir apprécier la réponse du gouvernement. Quand le premier ministre dit « Moi, j'ai appliqué toutes les règles de la santé publique », la règle voudrait que je prenne la parole du premier ministre. Mais j'aime mieux vérifier parce que je le sais pas, moi. Et dans d'autres cas, peut-être que c'est partiellement ou pas du tout ou beaucoup trop tard. Mais c'est des questions qui se posent.
Mais en même temps, je reviens sur le fond, c'est-à-dire sur le fait que tout semble indiquer que c'est pas la santé publique qui a imposé la fermeture des restaurants et des bars, que c'est le gouvernement qui a pris la décision. Et le docteur Arruda a dit, on était d'accord avec ça. D'ailleurs, je trouve que ça n'a pas été assez repris parce que c'est quand même quelque chose de fort significatif. Mais à partir du moment où on se dit ça, vous avez déjà été au gouvernement, vous êtes à l'Assemblée nationale depuis très longtemps. Est-ce qu'un gouvernement a le droit de faire ça? Je veux dire, un gouvernement est élu pour gouverner. Est-ce qu'il doit uniquement se plier aux exigences de la santé publique dans une situation comme celle-là? Ou il peut décider de dire, regardez, nous, on va jouer un coup en avant, puis on va en faire plus. En autant qu'il soit transparent, mais est-ce qu'il peut le faire?
Absolument qu'il peut le faire. Toutes les décisions, c'est le politique. Jamais, c'est le directeur de la santé publique. Chaque fois que vous avez entendu un ministre dire, c'est la santé publique qui a décidé, c'est faux. Le gouvernement n'abdique pas ses responsabilités au Dr Arruda. Dr Arruda, je le rappelle, c'est un sous-ministre adjoint et aussi directeur de la santé publique. C'est un aviseur. Lui, il fait des recommandations que le gouvernement est libre de suivre ou pas, ou partiellement. Donc, c'est toujours la responsabilité du gouvernement du Québec. C'est comme ça que ça se décide. Alors, comment voulez-vous que ce soit moi, vous ou le public, on soit capable de juger si le gouvernement a pris les bonnes décisions si on ne sait pas comment se prennent ces décisions, sur quelle base, avec quelle indépendance de la santé publique? Et c'est ça le fond de mon questionnement. Il se peut que le premier ministre ait pris, en toutes circonstances, les meilleures décisions, mais je trouve qu'il prend beaucoup de précautions pour pas qu'on le sache. Pas d'enquête publique indépendante sur les décès en CHSLD. Ouais. Pourtant, l'Ontario, de son bon ami de bière, là, Doug Ford, là, lui, là, il en a demandé une fin juillet. Puis il y a pas mal moins de morts. Alors, Toronto 1, Québec 0 là-dessus, sur la responsabilité. Puis pour le reste, on n'aura pas les avis, on n'aura pas de compte-rendu. Dr Arruda continue d'avoir son bureau dans l'espace du cabinet du premier ministre, entouré à la machine à café de staff politique. Je veux dire, tous les ingrédients sont là pour que le gouvernement se protège. Et moi, je pense que le gouvernement devrait partager les informations. Puis moi, le premier, si j'avais l'assurance qu'ils ont pris la bonne décision avec les éléments qu'ils ont, ben j'en ferais davantage la promotion.
Puis il y a souvent des rumeurs qui sortent aussi. Hein. On entend souvent un peu d'avance ce qui s'en vient. Puis je veux pas partir un débat de fuite médiatique, mais souvent, on entend un peu ce qui se passe. Puis là, c'est les écoles. On commence à comprendre que les écoles, il va peut-être avoir des décisions à prendre. Mm-hmm. Moi, j'aimerais ça savoir comment on prend les décisions aussi pour les écoles. Comment les décisions vont être prises dans les prochaines semaines, maintenant qu'il y a une école sur cinq qui est touchée par la COVID?
Là. Il y a un filtre. Il y a le filtre de faire attention à ce que les mesures qu'on prenne nous rendent le moins impopulaires possible. Par exemple, pourquoi les gyms sont ouverts et que les musées sont fermés? Je pose la question. Est-ce qu'il y a une plus grande proximité dans une bibliothèque que dans un gym? Est-ce qu'il y a moins de salive qui peut partir dans un gym que dans une bibliothèque? C'est les un cinémas. Exemple parmi d'autres.
Les cinémas aussi, le milieu culturel.
Mais en même temps, c'est quelque chose de naturel pour un gouvernement de chercher à se protéger. Je veux dire, si ça avait été le Parti québécois...
Il faut juste qu'on le comprenne.
Si ça avait été le Parti québécois, je ne suis pas certain que vous n'auriez pas eu les mêmes réflexes.
Moi, j'ai vécu à l'Île-Verte, j'ai vécu lac Mégantic. Il y avait une immense transparence de la part de la première ministre. Là, souvenez-vous des points de presse qu'on a tenus dans ces deux cas-là. Je pourrais parler du verglas, c'était la même chose. C'était pas tout à fait la même chose. Donc, il y a une nécessité, compte tenu de l'impact, là. La vie des gens, l'économie, la liberté. C'est assez cardinal là, comme valeur, comme élément. Ben, le gouvernement veut pas partager ces informations-là. Alors, des fois, on se fait dire, mais quand vous posez des questions, M. Bérubé, vous faites de la politique. Ma réponse est la suivante. Pensez-vous que le gouvernement de la CAQ fait pas de politique dans ses mises en scène, dans ses publicités, dans sa façon d'aborder les dossiers, dans le fait, par exemple, que mystérieusement, de plus en plus souvent, toutes les mesures annoncées d'un point de presse, on les apprend ce matin dans un ouais. carrousel de médias.
Le docteur Arruda aussi, on le voit moins depuis un bout. Hein. On sent qu'il y a moins d'importance. Il y a sûrement une décision politique là-dedans aussi. Là.
Ben encore là, est-ce qu'il ne devrait pas être indépendant? En Ontario, le docteur Arruda ontarien, là, il a fait une sortie pour dire que le gouvernement avait tort en prenant une décision. Je pense que on verra pas ça ici. Puis il y a toutes sortes d'affaires qui planent. Je vais vous donner un exemple, moi, qui me fatigue considérablement, puis j'ai l'impression que je suis le seul à l'avoir remarqué. Quand on a posé la question, à tout le monde en parle, au docteur Arruda lors d'un de ses passages, puis on lui a demandé s'il allait faire de la politique. Retrouver l'extrait, puis essayer de comprendre ce que ça veut dire. Il n'a jamais fermé l'idée à l'idée d'être candidat à la prochaine élection. Moi, ça m'inquiète, parce que si ça arrive, ça voudra dire que toutes les décisions prises avant et celles à venir seront sous, disons, suspicion, parce qu'il ne veut pas déplaire à l'équipe en place, qui vient d'ailleurs de le renouveler pour 3 ans. Moi, ce genre de choses-là, ça m'intéresse. S'il pouvait me dire aujourd'hui, je renonce à faire de la politique, je ne serai pas candidat en 2022, dossier clos, mais il garde cette option-là ouverte. Puis moi, c'est le genre de détail important qui m'intéresse.
Monsieur Bérubé, on va parler de la crise d'octobre un peu, parce qu'on est le 1er octobre, donc ça fait 50 ans ce mois-ci qu'il y a eu la crise d'octobre. Et là, vous avez déposé une motion à l'Assemblée nationale qui demandait des excuses officielles de la part du premier ministre du Canada, motion qui a été rejetée. Je sais que vous êtes
par un seul parti. Par un seul parti.
Ouais. Je sais que vous
êtes... Lequel, en passant? Je n'ai pas suivi ça. Quel parti?
Le Parti libéral du Québec.
Okay. Je sais que vous êtes capable de marcher, de mâcher de la gomme en même temps, là, donc de gérer une pandémie comme opposition et de penser à d'autres choses. Sauf que la question que je me posais, en fait, j'en ai deux rapidement. Là. Est-ce que c'est le bon moment de parler de ça lorsqu'il y a une pandémie comme celle-là? Et deuxièmement, pourquoi dans le texte de la motion ne pas avoir fait référence aussi à l'aspect tragique des agissements du FLQ, dont l'assassinat de Pierre Laporte?
D'accord. Quand quelqu'un s'oppose à une initiative, une des principales raisons évoquées, c'est pas le moment. Alors, c'est ce que vous venez d'utiliser. Je ne vous prête pas de mauvaise intention, mais c'est ce qu'on utilise habituellement comme argument. Il n'y a jamais de bon moment pour ça. Ça fait 50 ans que 497 Québécois et Québécoises ont été arrêtés injustement, perquisitionnés de façon abusive et en subissent les traumatismes. Ces gens-là n'ont rien fait. La loi des mesures de guerre leur a permis à des militaires d'entrer à coups de botte dans des appartements et des maisons et de menacer des gens d'avoir une balle dans le front, dans bien des cas, y compris des jeunes femmes. Ça, c'est la vérité. Il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, il faut réserver les motions. Mmh. Vous allez comprendre pourquoi l'enjeu de Pierre Laporte apparaît plus tard. Nous avons proposé cet angle-là parce qu'il n'a jamais été abordé. La mort de Pierre Laporte, l'assassinat de Pierre Laporte, le lynchage de Pierre Laporte, appelez ça comme vous voulez, et l'enlèvement de James Richard Cross, il y a des conséquences. Il y a des gens qui ont été enquêtés, qui ont été condamnés, qui ont purgé une peine. Le système de justice l'a fait. Moi, je souhaitais, avec les libéraux, pour les convaincre, parce que je suis allé au bureau de Dominique Anglade hier. J'ai descendu un étage, je me suis invité, je dis, écoutez, on va ajouter que la violence n'est jamais une forme d'expression politique acceptable, okay, ce que l'évêque a toujours dit, et on va rappeler la mémoire de Pierre Laporte, qui est un des vôtres. Ils ont quand même refusé, parce que le bout qui les fatiguait le plus, c'était pas ça, c'était les excuses au fédéral. Ils trouvent que c'est justifié, eux, qu'il y ait eu ces 497 arrestations, ils me l'ont dit. Alors, on est dans une autre zone. Et là, les libéraux ont réservé une motion sur Pierre Laporte, qu'on va voter, bien sûr. Mais ils n'en ont rien à cirer des personnes qui ont été arrêtées. Ouais. Ils considèrent que Gérald Godin, Pauline Julien, Jocelyne Robert et de nombreux jeunes Québécois, artistes, journalistes, étudiants, méritaient ce qui est arrivé avec la loi des mesures de guerre. C'est honteux. Et je m'attendais à plus de la part du Parti libéral surtout du Québec. Mais je suis naïf, me fait prendre à chaque fois.
Mais surtout que Justin Trudeau, il s'excuse pour tout. Hein, il s'excuse.
Sauf trois exemples. Je vous les nomme. Et les trois sont au Québec. Mirabel, Forillon, crise d'octobre. C'est les trois seules zones où il refuse de s'excuser. Pour tout le monde au Canada, là, il va s'excuser. Qu'il fasse n'importe quoi, il s'excuse. Il est bon là-dedans. Mais pour le Québec, jamais. C'est honteux.
On va en parler, je pense, encore dans les prochaines semaines. Monsieur Bérubé, merci de nous avoir parlé.
Ben, fait toujours plaisir. Invitez-moi.
Ben, c'est ce qu'on fait. Merci, Pascal Bérubé, chef intérimaire.
Pas de larmes, pas d'excuses.
Parti québécois. C'est vrai que Justin Trudeau s'excuse beaucoup, mais pour celle-là, très peu d'ouverture. 11h56, c'est l'heure du lunch qui débute. Bon lunch à tout le monde. On se retrouve dans quelques minutes.